Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Cela fait tout juste un an, comme il le faisait depuis des mois, Donald Trump achevait de déjouer les pronostics en étant élu 45e président des États-Unis face à la démocrate Hillary Clinton. Depuis, le style Trump n'a cessé de surprendre, voire de choquer, et il ne semble pas du tout parti pour changer entre tweets vengeurs contre tous ceux qui s'opposent à lui, politiques et médias confondus, et autres tentations unilatéralistes. Mais au-delà du style, quels sont les faits? Comment a-t-il agi? Donald Trump, un an après, tient-il ses promesses? C'est la question du jour. Et pour tenter d'y répondre, deux invités nous ont rejoints en studio. Paul Rhin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-président des Républicains en France, donc représentant du parti de Donald Trump.
Exact.
Et Bob Vallier, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes vice-président adjoint de Democrats Abroad en Europe. Et c'est la même chose pour vous, mais pour l'autre grand parti politique américain, les démocrates. Première question, après un an, Donald Trump vous surprend-il encore ou est-ce que vous avez fini par vous habituer à son style quand même un petit peu particulier, Paul Rhin?
Oh oui, je suis très habitué. J'aime bien son style. Les gens qui votaient pour Trump appréciaient son style de parler direct et clairement à dire les choses nécessaires à dire, parce que on est les Américains ou la majorité des Américains sont fatigués avec le politiquement correct façon de parler et oui, on est content.
Bob Vallier, je suppose que vous êtes un petit peu plus sceptique.
Pas du tout content avec son style. On ne s'habitue jamais à cette façon de ne pas gouverner parce qu'il ne sait pas gouverner. Il n'est pas un gouverneur. Donc, son style est rude, est impoli et c'est pas une question. Il s'agit pas du tout de politiquement correct. Donc, le politiquement correct, pour lui, c'est une façon de prononcer des propos racistes et xénophobes et de dire « Ah, je suis pas politiquement correct ». Et ça permet à toutes sortes d'Américains qui partagent ses opinions de faire exactement le même, mais pas à la télévision, pas au Twitter, dans les écoles, dans les bureaux, à la rue, dans les Starbucks. Il y a plein des clips qui circulent à YouTube et ailleurs, des gens qui confrontent des personnes noires et brunes aux États-Unis qui sont dans des positions de service, par exemple à Starbucks, en disant que moi j'ai voté de Trump pour Trump, donc je vais vous insulter pour que je sais pas pourquoi, mais bon le teneur du débat, du discours aux États-Unis a changé pour le pire et il est la raison pour ça.
Paul Rhin, qu'est-ce qui vous a le plus surpris depuis un an chez Donald Trump?
Je ne suis pas très surpris par...
Vous attendiez à tout ça? Oui,
pour moi, si je peux dire, en train de je ne suis pas surpris par les choses qu'il a déjà réussies. De faire un bilan sur Trump, c'est de faire les chiffres. D'accord? De parler des choses de racisme, les traitements des gens que Bob parle. Avant qu'on a dit que un groupe dans un débat parle de racisme, les choses comme ça, ils ont déjà perdu le débat. Le débat ici, c'est pas vraiment sur son comportement, mais c'est les chiffres qu'il a réussi de faire.
Okay. Alors,
en politique domestique.
En politique intérieure.
L'économie est est la priorité numéro un, pour les Américains. Et Donald Trump, il tient ses promesses sur l'économie. L'économie, c'est en train d'exploser.
Il y avait quand même le taux de chômage le plus bas depuis des années aux États-Unis,
oui,
Paul Rhin.
Le taux de chômage est tombé à 4%, le plus bas niveau depuis 17 ans. Il a réussi à ramener ou créer 2 millions de postes d'emploi depuis son élection. Il y a un niveau record de nouveaux postes d'emploi aux États-Unis, plus de 6 millions. L'économie américaine avait les deux trimestres consécutifs avec une croissance de 3% de PIB. Ça, c'est très 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 bien. C'était même mieux que prévu. Rappelons que pendant Obama, le moyen, il n'a jamais réussi à 3% par an. Le moyen, c'était vers 2%. Et grâce à ça, il y a un optimisme économique aux États-Unis très fort. Et le niveau de boursier, le marché de boursier est très haut aussi.
Bob Vallier, c'est vrai qu'il y a une conjoncture économique qui est plutôt favorable à Donald Trump en ce moment.
C'est vrai, mais le problème, comme tout économiste va dire, est que l'économie ne répond pas tout de suite à l'élection d'un président. Toutes les positives de l'économie en ce moment sont grâce aux politiques que Obama a instituées tout au début de son premier mandat, en 2008, quand l'économie était en train de s'effondrer. Donc, on sent maintenant les effets positifs et malheureusement, c'est Donald Trump qui va les clamer. Le problème, par contre, est que Donald Trump n'a rien proposé par rapport à l'économie. Il n'a pas passé des lois, il n'a pas passé un programme. Son budget proposé est absolument exécrable et va décimer le moyen classe. Donc, tous ces effets économiques ne sont pas dus à lui, car la raison simple, qu'il n'a rien du tout proposé.
Dans les promesses qui a été faites par Donald Trump pendant la campagne électorale, il y a ce fameux mur entre le Mexique et les États-Unis pour lequel le Mexique devait payer. Le mur, il y a quelques pans qui ont été dressés, mais ça n'avance pas très vite. Pourtant, Paul Ryan.
Ça avance, hein, et la chose importante est que ça avance. Il a déjà reçu les prototypes. Et oui, c'était une promesse de sa campagne de créer mieux, mais c'est juste une façon de améliorer les problèmes de l'immigration clandestine aux États-Unis. Donc, il est en train de faire les deux, et ça, c'est bien. Mais pour répondre à les commentaires de Bob, que ça,
allez-y.
C'est... que les bilans économiques, c'est juste grâce à Obama, c'est absurde. Le bourse aux États-Unis a fait une croissance de presque 30% depuis son élection.
C'est vrai que ces dernières semaines, la bourse de Wall Street va de record en record.
Et ce n'est pas que pour les riches, c'est important pour les classes moyennes. Parce qu'aux États-Unis, les Américains, le épargne de retraite,
la pension, les pensions sont
souvent, souvent basées sur les actions. Et quand ça monte 30%, c'est l'épargne de retraite qui monte 30% pour les classes moyennes. Ça, c'est énorme. Et c'est grâce à l'optimisme de les entreprises et les gens qui grâce à les politiques de Trump, par exemple, il a déjà sorti avec le Congrès républicain une nouvelle loi pour une réforme fiscale sans précédent qui va réduire les impôts pour les entreprises de 35 à 20%. Et comme ça, les gens sont très optimistes. Les entreprises, ils déménagent d'Asie aux États-Unis et ça crée des emplois.
Encore faut-il pour cela trouver une majorité qu'il n'a pas trouvé pour l'une de ses autres principales promesses qui est abroger Obamacare. Il n'a pas réussi à le faire.
Donc ça c'est une promesse qui n'était pas tenue. Il a promis quelque chose tout de nouveau pour tout le monde. Et puis qu'est-ce qui se passait? Les républicains et lui ont proposé un plan qui était minable. Donc il n'y avait rien là dedans, et au fait, ça aurait éliminé l'assurance de santé pour 25 millions de personnes. Heureusement, il y avait quelques sénateurs républicains assez courageux de voter contre. Mais par contre, je veux dire en réplique à mon cher collègue Paul que c'est vrai que la bourse a flambé un peu récemment, mais c'est pas au cause de quelque chose Trump a fait législativement. Donc, il est en train. C'est une autre promesse qu'on peut dire il a tenue, mais pour des résultats peut-être dangereux, mais il est en train d'éliminer plein des régulations sur l'économie, sur la fiscalité, sur l'environnement, sur l'énergie, etc. Et ça permet aux acteurs de Wall Street de faire n'importe quoi avec leurs fonds. Et donc, on est en train de voir une bourse qui est très bullish, très enflammée, mais c'est une boobie qui va éventuellement éclater et qui va nous ramener dans une situation qui était comme dans les années terminaux de George Bush.
Paul Rouin, je voudrais revenir sur cette affaire de l'Obamacare qui n'a pas été abrogée. Il semble, comme le disait Bob Vallier, qu'il y ait quand même quelques sénateurs et représentants américains qui aient du mal à suivre Donald Trump sur tout son programme.
C'est vrai qu'il y a une division dans les groupes républicains entre les gens dits modérés et les gens qui sont plutôt à droite, conservatrices. Et les républicains n'ont qu'une majorité pas très grande dans le Sénat, 52 à 48.
Ouais.
Donc d'avoir une majorité, il faut garder... il faut juste perdre deux, parce que tous les 48, évidemment, les démocrates vont voter contre toutes les initiatives de Trump. Donc, on ne peut pas perdre plus de deux sénateurs républicains, et on a perdu trois. Donc, si on perd, on ne peut pas passer Obamacare, mais la loi pour remplacer Obamacare. Le problème est Obamacare, c'est un désastre complet. C'est très, très, très cher pour la plupart des Américains, et c'est dommage que ce n'était pas possible de remplacer avec quelque chose pas fait, mais même meilleur.
Bob Vallier,
En fait, c'est pas le cas. Il y a encore des Américains qui s'inscrivent pour Obamacare en ce moment parce que c'est la période de l'inscription. Et bien sûr, Donald Trump a éliminé tout budget pour promouvoir Obamacare. Donc, il faut qu'on fait la publicité où on peut et comme on peut, parce qu'il n'y a pas le gouvernement qui va le faire. Donc, mais quand même, il y a des inscriptions. Il y a 28 millions des Américains qui sont couvertes maintenant avec une assurance de santé qui n'était pas couverte avant. Et à long terme, ça va avoir un effet positif sur l'économie parce que on a le système de santé la plus chère au monde. Et la plupart de ces coûts seront éliminés si tout le monde s'inscrit sur Obamacare ou pareil.
Paul Rouin, il y a des sénateurs américains qui n'ont pas voté, enfin, qui n'ont pas voulu soutenir cette réforme de l'Obamacare. Il y en a même qui ne se représentent pas, qui le disent ouvertement. Ils ne veulent plus avoir à travailler avec Donald Trump. Je pense notamment à ce sénateur de l'Arizona.
John McCain, oui.
Il y a aussi John McCain,
mais aussi Jeff Flake.
Ouais, Jeff Flake, c'est ça.
Ah oui, tu parles de... Oui, ça, c'était le deuxième sénateur. Oui, oui, il y a quelques qui sont... Ils n'avaient pas une chance de gagner dans la réélection. Donc, avant de sortir, ils ont dit les choses très mal sur Trump.
Et ça, c'est parce que Donald Trump a fait changer de l'intérieur le Parti républicain, les idées du Parti républicain.
Oui, c'est vrai qu'il est en train de changer le Parti républicain, c'est sûr. Un problème avec le Parti républicain, c'était des modérés comme John McCain et Flake et Susan Collins et Murkowski qui votent souvent pas avec le Parti républicain. Ils votent plutôt avec le Parti démocrate. Donc, c'est un peu problème pour le Parti. Donc,
ça, c'est pas vrai. Mais ouais, vous voyez ce qu'il fait là. Donc, tous les sénateurs qui veulent travailler pour les intérêts nationaux sont des criminels. Dans la tête d'un républicain trumpiste.
Ah oui, criminel raciste, comme d'hab.
Tous ceux qui mettent les intérêts nationaux devant les intérêts partisans sont des mauvais.
Ils ont changé de
donc l'idée
après des
de
années,
travailler
ils sont devenus plus gauche que droite.
Trumpiste.
Donc,
c'est pas le Parti républicain qui devient de plus en plus de droite. C'est ces sénateurs-là qui se gauchisent.
À mon avis. Ouais. Mais c'est vrai que le Parti républicain est divers. On a les différentes opinions, on a des gens modérés, on a des gens un peu à droite que le centre. Et on a des battres, c'est sûr. N'oublions pas que on avait 17 candidats pour la présidence.
Au départ, dans le parti, au sein du Parti républicain.
Au sein du Parti républicain en 2016. Donc, c'est divers, c'est beaucoup plus différentes opinions. Mais Donald Trump, il fait le surpris des gens comme on dit qu'ils sont les politiciens républicains modérés, comme Paul Ryan, parce qu'il fait les bonnes choses. L'économie est beaucoup plus forte. Il fait les politiques étrangères très, très bien, en fait. Il crée des relations très fortes avec nos alliés et même nos adversaires comme la Chine et les Russes.
Ça se passe très bien, apparemment. Bien. Là, il est en Chine là, pour une tournée asiatique.
Ils ont déjà vu le président Xi plusieurs fois et il va voir pendant cette semaine, demain, et créer des relations très fortes.
Alors, je reviens sur la politique intérieure. C'est le président le plus impopulaire après un an selon les sondages, mais deuxième chiffre, il est aussi soutenu à 80% par sa base électorale, le cœur du Parti républicain. Bob Vallier, est-ce que l'Amérique est fracturée? Ou est-ce que c'est à cause de Donald Trump, ou Donald Trump est arrivé parce que l'Amérique était fracturée?
Vous avez posé la question tout à l'heure, ce que vous étonne de la première année de Trump, et pour moi, la réponse à cette question est qu'il y a toujours un sur trois des Américains qui le soutient. Donc ça, c'est le grand surpris. Mais au fait, la division était déjà là. Et Trump a joué cette division. Il continue de jouer cette division. Il continue de diviser et distraire. C'est son façon de gouverner. Diviser et distraire. Donc, la division était déjà là. Il a bien joué cette division. Et c'est pour ça qu'il a gagné. Et ça, c'est sa stratégie de gouverner actuellement aussi.
Paul Rouyn.
Jouer sur la division. La division était là parce que la plupart des Américains étaient complètement fatigués avec l'établissement des politiciens en Washington, sur les deux côtés, le côté démocrate et républicain. Donald Trump a gagné parce que le peuple américain a voulu un vrai changement. Et il a fait le changement. Il a fait le changement pour les travailleurs aux États-Unis. Pas que les riches et les entreprises comme les démocrates accusent tout le temps. Ils travaillent pour les travailleurs aux États-Unis, pour améliorer la situation économique. Et ça, c'est pourquoi il est populaire. C'était la majorité silencieuse.
Les travailleurs ne s'accordent pas à cette thèse-là. Donc, si on étudie les sondages, par exemple, à Michigan, il a gagné en Michigan.
C'était un des États qui l'ont fait gagner l'élection présidentielle.
Ouais. Et moi, je suis de Flint, Michigan. Je suis né et j'ai grandi à Flint. Donc, je connais bien la classe travailliste à Michigan.
Et Flint, dans le Michigan, c'est cette ville d'où vient d'ailleurs le cinéaste Michael Moore également, et où il y a des problèmes d'eau potable, notamment.
Voilà, exactement. C'est ma ville natale. Mais j'ai pas bu l'eau depuis longtemps. Voilà. Donc, si on étudie les sondages à Michigan, tous les travailleurs qui se sont décidés de voter pour lui ont eux des regrets déjà. Donc, on voit un changement extraordinaire dans les sondages maintenant par rapport juste avant l'élection. Donc, et si Michigan est un signe de quelque chose, on va voir répéter la même chose en Ohio et en Pennsylvanie. Mais le grand signe était hier soir. Donc, le grand signe était hier soir, il y avait la Virginie et la Nouvelle-Jersey qui ont voté pour leur gouverneur démocrate. Et donc, en Virginie, qui était normalement assez conservateur, il y avait un gouverneur démocrate qui était très, très, très lié au Clinton. Les républicains sont dégoûtés par Clinton, donc ils avaient une chance là de vraiment changer l'établissement clintonien et ils ont raté. Donc, c'était un démocrate qui a gagné dans une grosse vague bleue en Virginie. C'est un signe pour 2018.
Oui, c'est un message au président, Paul Rouyn. Vous y croyez? Vous avez quelques secondes.
Ça, c'est amusant. Bob est un peu un comique. Virginie était bleue avant. C'était un état bleu. On dit c'était un gouverneur démocrate.
Bleu, c'est démocrate.
Démocrate. Ça change rien, ça.
C'était rouge il y a deux mandats et le gouverneur rouge était envoyé en prison pour de la corruption. Donc voilà les républicains en Virginie.
Merci Bob Vallier, merci Paul Rhin d'avoir participé à ce
merci
débat.
À
c'est déjà terminé. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Merci à Florence Ponce et à Valentin Vaner. Bonjour chez vous.